Mondial Sport sur RFI. Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, une émission exclusivement ballon ce samedi. Rond d'abord et longuement, puis ovale. Du foot donc pour commencer au Maroc où s'est déroulée ce soir la première demi-finale aller de la Ligue africaine des champions entre le WAC, le Wydad Casablanca et des Égyptiens d'Al Ahly. En Angleterre où tous les cadors jouaient aujourd'hui avec notamment le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Enfin en Italie avec un autre derby, celui de Milan, mais aussi la déroute du leader, l'Atalanta Bergame, à Naples. Nous évoquerons le classique congolais entre l'ASV Club de Kinshasa et le TP Mazembe de Lubumbashi, prévu ce dimanche à Kinshasa. Nous entendrons également le néo-international ghanéen Alexander Djikou. Et puis en fin d'émission, nous parlerons rugby, vous l'avez compris, et finale de Coupe d'Europe, avec la nouvelle désillusion des Français du Racing Métro 92, défait de quelques points en finale, d'un point par les Anglais d'Exeter. Hélène Avril est aux commandes de l'appareil, on peut décoller. Et notre énorme page football nous emmène donc d'abord au Maroc, à Casablanca pour être précis, où notre homme Frey Bogart à nous s'appelle Anas Yassine. Bonsoir camarade.
Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Anas, vous avez suivi pour nous la première demi-finale aller de la Ligue africaine des champions. Je le disais, elle opposait les locaux du Wydad, deux fois titrés dans la compétition, aux Égyptiens d'Al Ahly, huit fois titrés eux, un record. Et les Carottes ont fait valoir cette expérience. Ils ont pris une belle option avant le retour chez eux dans huit jours.
Oui, 2-0, scénario catastrophe pour le WAC, le finaliste de la dernière édition, qui a reçu un coup derrière la tête dès la troisième minute, et on peut dire scénario idéal pour le club Kerot, qui a ouvert donc le score très tôt. Un mauvais contrôle de Yaya Jabran, milieu de terrain, positionné en défense en l'absence de la charnière centrale. Eh bien, cette faute, cette erreur a profité à Afcha, qui s'en est allé battre le gardien marocain Tegnaouti. Afcha qui retrouve le chemin défilé pour la première fois depuis six rencontres. Et puis, le WAC a eu l'occasion de revenir à la marque, mais l'équipe marocaine a raté un penalty. Il faut dire que le tir de Hawk a été bien arrêté par le gardien égyptien Chennaoui. 1-0 à la première mi-temps, logique, l'Wydad de Casablanca ne s'est pas vraiment créé beaucoup d'occasions. Et puis en deuxième période, les Égyptiens ont fait bien sûr parler leur métier en doublant la mise sur penalty, l'international tunisien Ali Maloul, qui a donc transformé un penalty 2-0, score idéal, 2-0, marqué sans encaisser. Et puis bien sûr, avant de recevoir le match retour, l'équipe égyptienne est bien partie pour disputer la finale de cette édition, Olivier.
Et ce dimanche, Anas, deuxième demi-finale, toujours à Casa, toujours face à une formation égyptienne, le Raja face aux Amalek. Vous le sentez mieux pour vos compatriotes en 10 secondes ?
Sincèrement, ça sera très difficile parce que le Wydad a été marqué par l'absence de plusieurs joueurs, les changements d'entraîneurs. Là, c'est le même problème pour le Raja qui vient d'être sacré champion. Les mêmes problèmes, ça veut dire beaucoup d'absents. Quasiment toute la défense est décimée. Et puis ce soir, on a appris que deux milieux de terrain, Zrida et Nana, ont été testés positifs. Eh bien, ils compteront peut-être les Rajaouis sur l'attaquant congolais Malongo pour essayer de prendre l'avantage sur cette équipe, solide équipe du Zamalek.
Votre place est réservée, hein. On compte sur vous demain à la même heure, quel que soit le scénario, bien sûr. Allez, bonne fin de soirée. Anas Yassine, en direct depuis Casablanca. On reparlera foot africain dans quelques instants, bien sûr. Place à l'Europe en attendant et direction l'Angleterre où ce samedi était une folle journée. Tous les cadors sur le pré et donc Philippe Auclair au combiné. Bonsoir Philippe.
Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous et à toutes.
Alors commençons par The Merseyside Derby. Je le dis bien.
Pas trop mal.
Je me suis entraîné toute la journée, hein. Vous êtes dur.
Le derby de la Mersey, allez.
Cela signifie le derby de la Mersey, la rivière qui traverse Liverpool et qui opposait donc ce derby en début d'après-midi. Everton, le leader, aux Reds, champion en titre, et qui peuvent nourrir quelques regrets, Philippe. Hein. Ça s'est joué à un doigt, non?
Ça s'est joué à un coude de Sadio Mané, on va dire, qui était hors jeu à la 92e minute lorsqu'il est lancé au but et qu'il fait la passe, ce qu'on croit être la passe décisive pour le but de la victoire pour Jordan Henderson. Mais Le VAR en dessine autrement et le but est annulé. Et donc, score final 2-2 dans un match plein de rebondissements et plein également de conséquences, on imagine, pour l'avenir. Parce qu'en fait, bon, il y a ce score, 2-2, c'est pas vraiment une énorme surprise dans ce derby qui donne beaucoup de résultats nuls, enfin, de matchs nuls, ou de scores de parité, comme on dit en Belgique, depuis quelques années. Et qui ne change pas grand-chose au classement. Everton reste en tête, toujours invaincu. Liverpool se replace à 3 points. Mais évidemment, ce soir, les grosses questions, c'est l'état de santé de Virgil van Dijk.
Quelle sortie de Pickford. Qu'il n'est même pas averti sur ce coup.
Il n'est pas averti sur le coup. Il y a une grosse controverse en Angleterre qui, à mon avis, va faire les premières pages des journaux demain et encore après-demain. À savoir que Jordan Pickford, c'est un... Je ne sais pas comment décrire, je pense qu'il faudrait un karatéka pour nous décrire ça, ou peut-être un spécialiste de taekwondo, une véritable agression sur Virgil van Dijk. Le ballon est loin, et le résultat est que Virgil van Dijk a subi une blessure qu'on imagine être sérieuse. Je viens de voir des images du joueur à l'hôpital à Liverpool sur des béquilles. On ne peut absolument pas confirmer, cela dit Olivier, le fait, cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle il se serait fait les croisés, il serait absent 7 ou 8 mois, nous n'en savons absolument rien. Simplement, c'est une blessure relativement sérieuse qui va sans doute le tenir écarté des terrains pendant un certain temps. Combien de temps exactement, on l'ignore parce que nous n'avons pas la nature exacte de cette blessure. Mais c'est un coup dur de toute façon pour Liverpool, que ce match nul. Et malgré un Sadio Mané qui a marqué un but absolument magnifique d'entrée de jeu, malgré un Mo Salah qui lui aussi a marqué un but splendide du gauche, une reprise de volée du gauche sur un mauvais dégagement de Mina, malgré le retour de Matip également, qu'il faut signaler malgré tout, qui était bon, et ben Everton confirme ses progrès avec Carlo Ancelotti, donc score final 2-2, et une équipe de Liverpool qui sort, blessée de cette confrontation qu'ils espéraient remporter et qu'ils auraient peut-être mérité de remporter au vu de leur domination de la possession et du jeu.
Alors l'autre grosse affiche du jour, Philippe, on va essayer d'aller un peu plus rapidement, même si oui. C'est Manchester City-Arsenal. Un classique de ce début de saison, le maître Pep Guardiola face à l'élève Mikel Arteta. Et c'est le maître qui a eu le dernier mot.
Oui, avec un but de Raheem Sterling, quelle surprise. Et une équipe d'Arsenal qui a bien tenu le coup, qui a défié Manchester City jusqu'à la fin de la rencontre, mais sans se créer vraiment d'occasion trop franche, avec un Aubameyang légèrement en retrait par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et City qui avait absolument besoin de l'emporter, sa première victoire à domicile de la saison, et qui donc prend les 3 points, ce qui leur permet de revenir à 3 longueurs de Liverpool et à 6 du leader Everton.
Alors c'est ok pour City, quid de United qui jouait ce soir à Newcastle, ça s'est terminé il y a 45 minutes environ.
Oui, ça avait mal commencé avec un but contre son camp de Luke Shaw. Ça a très bien terminé puisque le score final c'est 4-1 avec Bruno Fernandes auteur d'un doublé.
Et qui a raté un penalty.
C'est hallucinant, j'allais vous le dire, c'est extraordinaire. Il a loupé un penalty. Fallait bien que ça arrive alors que le score était de 1 partout. Il s'est vengé. Le but du 2-1 est absolument magnifique. Le mouvement collectif qui part d'Donny van de Beek et avec cette talonnade sublime de Marcus Rashford pour ouvrir le but à Bruno Fernandes, c'était vraiment du grand art. Marcus Rashford, 2 passes décisives, 1 but, ça va pour lui, ça va pour le jeune anglais, dans une équipe de Manchester United très remaniée par Ole Gunnar Solskjaer, mais les choix de Ole Gunnar Solskjaer ont payé, puisque les voilà avec 3 points, n'oublions pas qu'ils ont un match en retard, donc ils ne sont pas distancés tant que cela.
On termine, Philippe, avec Chelsea qui nous a fait la fable du lièvre et de la tortue face à Southampton. Rien ne sert de courir, il faut juste partir, en l'occurrence marquer à point.
Il faut marquer à point, et en l'occurrence, qui a marqué à point, c'est Southampton qui était mené 2-0, qui est revenu par Danny Ings et Che Adams. C'est Southampton qui, dans le temps additionnel, par Yannick Vestergaard, est revenu à la hauteur de Chelsea. Des buts made in Deutschland pour Chelsea, hein, Timo Werner doublé, Kai Havertz le but du 3-2, mais une équipe de Chelsea qui, ma foi, a du mal un petit peu à justifier son rang de outsider pour le titre, alors qu'ils ont dépensé 250 millions d'euros pendant le mercato d'été.
Énorme, personne n'a fait autant.
Non, record d'Europe et en fait record d'Angleterre de tous les temps sur un seul mercato. Mais pour l'instant, ça a un petit peu de mal à trouver sa forme sur le terrain. Et du coup, ben, ma foi, cette équipe de Chelsea n'est pas nécessairement aux premières loges comme on devrait s'y attendre. Et est aujourd'hui, alors qu'ils ont joué 5 matchs, se retrouve à 5 points d'Everton avec 5 matchs également. Une petite déception pour l'équipe de Frank Lampard. Mais bon, chapeau à Southampton, bien revenu au score, mené encore une fois 2 fois. Et qui a trouvé les ressources pour égaliser en toute fin de rencontre.
On rappelle le classement, hein. Everton en tête, 13 points, 3 longueurs devant Liverpool, Arsenal est 5e avec 9 points, Chelsea 6e, 8 points, Manchester City 9e avec 7 points, et Manchester United 14e avec 6 points, mais un match en moins, personne n'est distancé. Merci Monsieur Auclair, on se retrouve très vite, on l'espère, et on le sait sur RFI. Allez, on file, hein, parce que nous rejoignons l'Italie. Quel programme l'Italie où nous attend à Milan, Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Olivier.
Alors là aussi chez vous, tous les gros étaient de sortie dès aujourd'hui. Ligue des Champions oblige, hein, la semaine prochaine. C'est pour ça que ça jouait partout des gros matchs ce samedi. On commence par la Juventus, dont la rencontre à Crotone, le dernier, s'est terminée il y a moins d'une heure. Compliqué hein, ce match, Matteo, pour les bianconeri de Pirlo, sans Ronaldo.
Oui, tout à fait. Le petit Crotone a vraiment donné du fil à recoudre au Bianconeri en ouvrant le score sur penalty grâce au Nigérien Simi. La Juve a ensuite égalisé avec la nouvelle recrue Alvaro Morata, mais ce but n'a pas refroidi l'esprit des joueurs de Crotone qui n'ont pas cessé de se battre avec toute leur force et ont pu... Et en voulant, on pourrait même dire que Crotone méritait de gagner. Ah ben bon, ils n'ont pas réussi à le faire car devant il y avait la Juve qui pour le souligner, a joué avec un joueur en moins car Federico Chiesa a bien pensé de fêter son début à la Juve avec une expulsion. À la fin donc, score final 1-1 qui n'arrange pas trop la Juve. Qui au classement compte déjà 4 points de retard sur le premier de la classe.
Alors on l'a dit, Matteo, Ronaldo n'était pas là car il a été testé positif au Covid-19, il est à l'isolement, alors dans une maison plutôt confortable. Hein. Et malgré tout, il est aussi en pleine polémique avec le ministre des Sports.
Oui, en effet, Vincenzo Spadafora, ministre des Sports italien, il y a 2 jours a accusé Ronaldo de n'avoir pas respecté le protocole anti-Covid en quittant le 5 octobre dernier l'hôtel où toute la Juve était confinée à cause du fait que 2 membres du staff du club turinois avaient été testés positifs. Le joueur avait quitté donc Turin pour rejoindre son équipe nationale. Ronaldo a rejeté l'accusation de Spadafora avec une vidéo message postée sur Instagram et dans ce message le Lusitain ne nomme pas le Spadafora mais l'appelle monsieur au lieu de ministre, chose qui n'a pas plu au ministre qui hier a relancé la querelle en déclarant que CR7 est un menteur et un arrogant. On attend la réponse de Ronaldo même si honnêtement, on voudrait bien se priver de cette polémique dans un moment actuellement aussi délicat.
Ouais, ça c'est très très clair. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, c'est comme ça qu'on dit chez nous, je crois. Hein. Place au derby milanais, Matteo, chez vous à Milan, donc le Milan AC qui dompte l'Inter et confirme son excellent début de saison grâce à Super Zlatan.
Super Zlatan guéri du Covid il y a seulement 8 jours. Aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic s'est imposé aussi sur l'Inter car ce derby, le premier disputé dans un San Siro pratiquement vide, a été marqué par le Suédois auteur d'un doublé qui a permis aux Rossoneri de battre le Nerazzurri après 4 ans et 8 mois. La dernière victoire milaniste remonte au 31 janvier 2016. Donc Ibra capable de tout, même de mettre fin à ce tabou du derby. Mais il faut reconnaître un mérite à toute l'équipe rossonera qui ce soir se retrouve toute seule au sommet de la Serie A avec 12 points, 4 victoires dans les 4 premiers matchs. Ça faisait depuis 25 ans qu'une chose pareille à l'AC Milan n'arrivait pas et à ce moment-là, il y avait sur le banc assis un certain monsieur Fabio Capello. Donc un souvenir qui pourrait bien être prometteur, très bien prometteur pour le club milanais.
et on n'a pas du tout entendu votre sourire et votre contentement à l'idée que l'AC Milan soit en tête du calcio. On termine, Matteo, avec une autre grosse affiche du jour, le Napoli qui accueillait le leader, l'emballante Atalanta de Bergame, qui s'est fait proprement emballer.
Ah ben oui, quel caractère ces Napolitains, comme si rien ne s'était passé en semaine avec la défaite 3-0 sur tapis vert face à la Juve et un point de pénalité. Là, les joueurs de Gennaro Gattuso ont totalement effacé avec 4 coups de balai la redoutable Atalanta, aujourd'hui totalement impuissante. Ça a été un vrai show, celui offert par le Napoli, qui n'a rien concédé à l'adversaire. L'équipe, les Azzurri, cet après-midi ont été impeccables. Victor Osimhen, encore une fois très inspiré, et qui aujourd'hui a réalisé son premier but avec le nouveau Tossard. A noter aussi le début du français Diamone Bakayoko, qui s'en est plutôt bien sorti et a su mettre ordre au milieu du terrain. Napoli donc très bon et qui satisfait pleinement son entraîneur Gennaro Gattuso, qui à la fin du match de cet après-midi a déclaré « Je suis furieux contre ceux qui nous ont empêchés de jouer face à la Juve, car en ce moment de grâce, on aurait pu gagner ce match-là. »
Eh bien, moi, Matteo Cheffi, je déclare, on vous laisse à votre nuit milanaise et on vous dit à très bientôt. On vous remercie pour toutes ces informations. En Europe, toujours, on vous parlera longuement de la Liga. Demain soir, rassurez-vous, tous les rageux sur les réseaux sociaux, on peut pas tout faire le même jour. Il fallait en garder un peu pour demain. On sera avec Pierre Chaperon, bien sûr, en direct de Madrid. Mais les résultats du jour s'imposent avec la défaite du Real Madrid à domicile, 1-0 face au promu Cadix, et celle du Barça, 1-0 aussi, à Retafe, misère de misère. Du coup, Cadix et Retafe sont à égalité avec le Real en tête. Barça, le Barça est 9e à 3 longueurs, mais avec un match en moins. Victoire aussi de l'Atlético Madrid au Celta Vigo, 2-0 avec le 150e but en 195 matchs de Liga de Suarez. Les Colchoneros sont 6e. Défaite du FC Séville à Grenade, 1-0. En Allemagne, le leader Leipzig s'impose à Augsbourg, 2-0, et conserve un point d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 4-1 à Bielefeld, grâce à des doublés de Müller et de Lewandowski, comme c'est original. 3e, Dortmund, ça c'est pas très original non plus, qui est allé l'emporter 1-0 à Hoffenheim. Enfin en France, Reims file vers la relégation, je sais, c'est loin la fin de saison, mais c'est mal embarqué, pas une victoire en 7 matchs et une défaite à domicile, 3-1 face à Lorient. Et puis en soirée, le large succès de Marseille à domicile, 3-1 face à Bordeaux, première victoire de la saison au stade Vélodrome pour l'OM, un succès qui fait du bien, nous dit le milieu de terrain Michael Cuisance, dont c'était la première sous le maillot phocéen.
C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce premier match qui nous tenait vraiment à cœur. Et c'est vrai que je suis heureux, j'ai retrouvé le sourire parce que ici je me sens bien et je suis comblé. La concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Faut continuer comme ça, c'est que le début et après on a encore quelques points à peaufiner pour le match de Champions League, mais on est sur la bonne voie.
Marseille 5e à 3 longueurs du PSG en attendant demain du PSG et de Rennes, hein, en attendant demain dimanche 21h TU, le derby du Nord entre Lille et Lens. Autre affiche demain après-midi, cette fois à 13h30 temps universel, à des milliers de kilomètres plus au sud, le classique du championnat congolais à Kinshasa, où la AS Vita Club reçoit les corbeaux du TP Mazembe. Une affiche entre les deux meilleurs clubs de la place, qui affiche toujours complet, que ce soit à Lubumbashi ou à Kinshasa, mais le Covid est passé par là, a changé la donne forcément cette année. Et c'est à huis clos que le V-Club va recevoir le Tout-Puissant pour le compte de la 3e journée de la Ligue Nationale de Foot, au Stade des Martyrs, sous les yeux quand même de Pascal Mwangala.
80 000 personnes, c'est le nombre de sièges du Stade des Martyrs, mais Vita Mazembe fait jusqu'à 100 000 spectateurs. Un vrai manque à gagner, en termes d'ambiance, notamment dans les gradins, à l'occasion de la 3e journée. Le Classico congolais, le premier post-confinement, va malheureusement se jouer sans public. Une situation que Florent Ibengue, coach de Vita Club, comprend.
On joue sans notre public et je crois que c'est préjudiciable pour nous, pour Mazembe, mais bon, la santé avant tout, on l'accepte, avec toute logique, on l'accepte. Il faut se préserver par rapport à la maladie, il n'y a pas de souci.
Mais le technicien congolais a dit une chose à ses joueurs.
Si vous avez la chance de jouer ce match-là, il faut donner de la joie. Tout simplement parce que au-delà de ce match, il en va un petit peu de l'honneur du football congolais qu'on doit garder haut.
Pour Dragan Cvetkovic, l'entraîneur français des Corbeaux, cela est une pression supplémentaire.
Tout le monde attend un grand match de la part des deux équipes avec de très grands joueurs. Donc ça, c'est un honneur pour nous et on se doit de répondre présent.
Pour beaucoup des supporters, la télévision reste le seul moyen pour ne rien manquer de ce premier classico RD congolais de 2020. Leur prière est que la Société nationale d'électricité rassure le courant à l'heure du match. Pascal Mangala, Kinshasa, RFI.
Il va falloir le rassurer, le courant. Hein, ASV Club, TP Mazembe, 13h30. Temps universel, on en reparlera bien sûr demain soir. Ben, il est 21h50 en temps universel, dites donc, c'est grandement l'heure d'accueillir Cédric De Oliveira. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Cédric, les sélections africaines retrouvaient les terrains durant ce mois d'octobre. Beaucoup, beaucoup de matchs entre les 7 et 13, il y a quelques jours, donc pratiquement un an après leur dernière rencontre. Évidemment, à cause de la crise sanitaire, on n'en finit plus hein, de l'évoquer. Donc c'était le cas du Ghana, on en parle Cédric, parce que vous avez pu vous entretenir avec un nouveau venu chez les Black Stars, Alexander Djikou.
Oui, Alexander Djikou, un défenseur qui connaît bien la Ligue 1, il est passé notamment par Bastia et Caen, il évolue maintenant à Strasbourg et il a donc connu ses deux premières sélections avec les Black Stars face au Mali et au Qatar. On l'a joint juste après la victoire face au Qatar 5-1 et on a cherché à savoir tout d'abord comment s'était passé ce premier rassemblement.
Ça s'est très très bien passé, bon, on connaît l'ambiance de l'Afrique, on sait que voilà, les joueurs ils aiment bien danser, ils aiment bien rigoler tout ça, donc je savais que ça allait très très bien se passer. Le Ghana me suivait depuis assez longtemps. Je me donnais vraiment le temps de la réflexion et je pense que maintenant j'arrive à maturité et c'était le bon moment pour accepter cette sélection et pouvoir vivre de nouvelles choses.
Alors vous qui êtes binational, on le rappelle, hein, du coup votre père est ghanéen et votre maman est française, si je me trompe pas. C'est quoi cette envie de rejoindre le Ghana? C'est quelque chose que vous avez toujours envisagé dans votre carrière?
Je l'avais depuis longtemps dans un coin de ma tête. C'est un objectif. Après voilà, j'attendais vraiment le bon moment. Avant ça s'est pas fait parce que je me concentrais vraiment sur ma carrière en club. Mais après maintenant j'ai senti vraiment que c'était une bonne opportunité pour moi. Et voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai accepté cette sélection.
Alors dans ce rassemblement, il y a eu la défaite face au Mali 3-0 et puis la victoire face au Qatar 5-1. C'est quoi? On peut dire que c'est un bilan mitigé.
Ouais exactement, on va dire que c'est un bilan mitigé. Après il faut savoir qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, énormément. On était 11-12 nouveaux joueurs à connaître la sélection pour la première fois. Donc voilà, on sait que le Ghana, c'est vraiment un renouveau. On sait qu'ils sont vraiment axés sur les jeunes qui jouent dans différents clubs en Europe ou autre. Et voilà, on savait que ça allait être difficile au début, l'intégration footballistiquement parlant, surtout par rapport aux automatismes, parce que c'est la première fois qu'on se côtoie. Après, donc on va dire, on a fait un match, on va dire, test contre le Mali. Bon, ça ne nous a pas réussi, dû au manque d'automatisme. Après, on s'est bien rattrapé contre le Qatar et je pense que c'était vraiment bien de finir sur une bonne note.
Avec tous ces jeunes joueurs-là, vous le disiez, du coup, il y a une sorte d'émulation, vous en faites partie, ça doit être assez grisant, non?
Oui, exactement. Bon, on sait qu'il y a 3-4 joueurs cadres. Il y a les frères Ayou qui viennent souvent, il y a Thomas Sorteil. On sait qu'il y a d'autres joueurs cadres qui ne sont pas venus parce que je pense que la sélection les connaît déjà. Je pense que la prochaine sélection... Il y aura d'autres cadres ou d'autres personnes qui ont déjà connu la sélection qui reviendront pour apporter leur talent. Maintenant, voilà, je suis très content que je fasse partie maintenant de cette liste. Maintenant, c'est à moi de prouver au quotidien pour pouvoir réintégrer la prochaine sélection.
Avec qui vous vous entendez le mieux dans cette sélection? Vous connaissiez déjà certains joueurs?
Ben, je connais bien Enoch Kwateng, le latéral de Bordeaux. Et après, je connaissais un peu les frères Ayou. Ils ont joué en France, ils parlent français, ils parlent la langue du Ghana, ils parlent anglais. Donc vraiment, dès que j'avais un petit problème, on va dire, je passais par eux. Ça va, on va dire que ça a facilité mon intégration.
C'est pas un peu frustrant de découvrir la sélection dans ce contexte de crise sanitaire? Entendre l'hymne ghanéen là, dans un stade qui sonne creux comme ça, ça doit faire bizarre.
Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est assez frustrant pour nous les joueurs. Surtout que, voilà, comme vous l'avez dit, je pense que il devrait avoir une très très grosse ambiance au pays. Mais bon, voilà, faut pas oublier ce qui s'est passé déjà avec le Covid. Et donc, c'est comme ça, il faut faire avec.
Ouais, vous commencez à en avoir l'habitude. Du coup, un objectif pour les Black Stars, bon, j'imagine que voilà, ça vous fait rêver un petit peu. Ça faisait peut-être partie d'ailleurs de votre réflexion, mais de disputer comme ça des grandes compétitions, peut-être la CAN en 2022, éventuellement la Coupe du Monde en 2022 également.
Moi, ouais, exactement, mais vous avez tout résumé. Déjà, se qualifier pour la CAN. Ensuite, faire une très bonne CAN et pourquoi pas la gagner, parce que les Black Stars, on se qualifie souvent, on va dire, pour la CAN, mais malheureusement, il manque un trophée. Enfin, ça fait très très longtemps qu'ils ont connu des demi-finales, des finales, mais sans trophée. Donc, je pense que ça va être vraiment l'objectif principal du pays. Après, pourquoi pas se qualifier également en Coupe du Monde, parce que voilà, ils ont fait un très beau parcours en Afrique, ouais, en quart de finale contre l'Uruguay. Donc pourquoi pas refaire ce très très beau parcours.
Alexander Djikou, un mot également sur le début de saison de Strasbourg. Pour l'instant, c'est compliqué. Strasbourg est 18e de la Ligue 1. Comment vous expliquez ces difficultés ?
Et on a une préparation physique assez tronquée par rapport au Covid. Voilà, on sait qu'on a eu 10 joueurs avec le Covid, dont moi. On a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de points dans ce début de saison. Maintenant, tout le monde a retrouvé ses moyens physiques, donc on n'a vraiment plus d'excuses. Donc franchement, il n'y a pas d'affolement, pas d'inquiétude. Mais on n'a pas le choix maintenant, il ne faut plus calculer, il faut prendre match après match et gagner le plus de points possible.
Alors, dans les dernières heures du mercato, le Sénégalais Habib Diallo a été transféré donc de Metz à Strasbourg. C'est une bonne chose pour le club, il peut vraiment apporter à l'équipe, Habib Diallo.
Ah oui, c'est sûr. Après, pour avoir joué deux matchs contre lui, ouais, c'est un attaquant très physique, imposant devant. Il a une très bonne protection de balle, il a vraiment bien les ballons. Et le plus important, c'est que voilà, c'est un redoutable finisseur. Il y a d'un âge, je crois qu'il avait marqué 12 buts en Ligue 1. Donc c'est très très bien pour l'attaquant. Donc j'espère qu'il va faire de même avec nous. Et j'ai pas de doute qu'il marque des buts. Pour l'instant, on n'arrive pas à retrouver cette efficacité offensive. Donc j'espère qu'avec un renfort, on la trouvera rapidement. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui nous fait défaut.
Voilà, Habib Diallo, que l'on verra peut-être pour la première fois avec Strasbourg demain face à Lyon. Alexander Djikou, Olivier, lui, est suspendu, mais peut-être qu'on le verra avec le maillot ghanéen en novembre pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.
Mais on le lui souhaite. Allez, c'est fini pour le foot dans mon Mondial Sport, mais ça n'est fini que jusqu'à demain. Maintenant, on parle rugby et d'une nouvelle désillusion pour le Racing 92. Bonsoir, Cédric de Oliveira. Rebonsoir.
Bah oui.
C'est marrant, pourquoi vous avez... Oui, c'est écrit. Le club francilien battu en finale de la Coupe d'Europe par Exeter.
Oui, j'avais envie de vous dire bonsoir. Donc, ouais, bonsoir Olivier. Ça fait 3 défaites en 5 ans. Et pour le Racing, et celle-là, elle risque de faire très mal. 31-27 dans un match de haute volée à Bristol, mais que le club français a vraiment pris par le mauvais bout. Début de match cataclysmique. Des fautes de main, des pénalités, des cadeaux à l'adversaire. Franchement, il ne pouvait pas moins bien commencer. Il y avait d'ailleurs 14-0 pour Exeter après un quart d'heure de jeu. Exeter qui disputait, on le rappelle, sa première finale de Coupe d'Europe. Mais il faut le signaler, le Racing a eu une très grosse capacité de réaction puisqu'il a été capable d'inscrire deux superbes essais de Simon Zebo et de Juan Imhoff, 14-12 puis 21-12 à la pause après un nouvel essai d'Exeter.
Le Racing qui a passé son temps à courir en fait après le score.
À chaque fois que les franciliens se rapprochaient, Exeter punissait les trop nombreuses approximations. La charnière formée de Teddy Iribarren et de Finn Russell a commis trop d'erreurs. Et c'est ce qui cause cette défaite du Racing, évidemment. Énorme désillusion pour le capitaine Henri Chavancy.
Il y a beaucoup de déceptions, forcément. Il y a même de la tristesse, vraiment beaucoup de tristesse. On avait vraiment à cœur d'enfin gagner ce trophée. C'est vrai qu'on a fait une entame très brouillonne. On a donné des points faciles à cette équipe d'Exeter et on a couru après le score tout le match. Malgré tout, on a réussi à revenir, à recoller. On a une opportunité dans les dernières minutes de passer devant. On vient échouer sur la ligne. Je crois que c'est vraiment à l'image du match. Ça s'est joué à rien, mais... C'est très dur, mais c'est comme ça.
À propos recueilli par France Télévisions, un mot Olivier, tout de même sur Exeter, les Chiefs sacrés pour leur première participation en finale de la Coupe d'Europe. Les partenaires d'Henry Slade qui ont gravi les échelons jusqu'au sommet du rugby européen, ils étaient encore en deuxième division anglaise il y a 11 ans.
Et vous revenez demain, hein, parce que ça fait toujours plaisir de vous dire bonsoir.
Mais avec
fois
plaisir.
Dans une même demi-heure. Voilà, c'est fini pour Mondial Sport. Une dernière information.
Mais bonsoir.
On attendait le nouveau maître du demi-fond l'Ougandais, Joshua Cheptegei, mais c'est son jeune compatriote, Jacob Kiplimo, 19 ans, qui a déjoué les pronostics pour s'emparer ce matin du titre mondial de semi-marathon. C'était à Gdynia, en Pologne. Chez les dames, c'est la Kenyane Pérez Chepchirchir qui a été sacré pour la deuxième fois après son titre de 2016. Voilà, cette fois, c'est vraiment fini. On se retrouve demain 21h30 TU et il y aura encore Hélène Avril aux commandes de l'appareil.